Claude Makowski, qui va parler du théâtre comme art. Ce n'est pas une personnalité médiatique, je dirais Dieu merci, mais vous allez voir à sa biographie, le genre de personne qu'il est. Donc il est né en 1936, il a une licence ès-lettres. Il a abandonné ses études en 1958 pour réaliser la commande d'un film de marionnettes sur le thème du roman de Renard. Début des années 60, il a fondé le cercle de MacMahon, à l'origine de la diffusion en France de Joseph Losey, Raoul Walsh et Fritz Lang. Et il a créé la société Citer Film, qui a produit ses premiers courts-métrages. Il a été, à partir de 62, directeur et programmateur du cinéma Le Passy, membre du conseil d'administration de l'Association française des cinémas d'art et d'essai, et secrétaire général de la revue Les Cahiers du cinéma avec Jacques Rivette et Jacques Doniol-Valcroze. Je répète, ça c'était en 62. En 63, il rachète un hôtel, rue du Dragon, et le transforme en cinéma, Le Dragon, qui devient un des hauts lieux du cinéma de qualité. En 64, Nelly Kaplan s'associe à Citer Film et entreprend la production de nouveaux courts-métrages. Bon, de 67 à 68, il est conseiller à la programmation de l'UGC, l'Union Générale Cinématographique. En 68, Claude Makowski crée le département de distribution des films 13 avec Claude Lelouch. Et puis, à partir de 69, il abandonne ses activités d'exploitation et de distribution pour se consacrer à la production. Je vais en parler. Et puis, depuis, il est producteur de cinéma. Et en même temps, il a poursuivi depuis le début des années 90 une activité, je dirais, d'histoire de l'art, un titre de passion privée, notamment une histoire consacrée à Albrecht Dürer. Donc je vais vous parler de... Il est producteur de cinéma, donc, mais de cinéma, je dirais, d'art. Avant, on disait d'art et d'essai. Sa filmographie... 1900, j'en donne simplement quelques-unes. Hein, à la source, La femme aimée, Dessins et merveilles, La nouvelle orangerie, Les années 25, c'est des années 64, ça. Le regard Picasso, 1967, pour lequel il obtiendra Lion d'or au Festival de Venise. Avec Nelly Kaplan, La fiancée du pirate, en 1969. Le vers de l'amitié, Au vers de l'amitié, 1970. Papa, les petits bateaux, 1971. Charles et Lucie, 1980. Faut vivre dangereusement, Plaisir d'amour, 1990. Et publication, donc, et je l'ai lu, donc je sais de quoi je parle, il a publié une étude absolument passionnante et fascinante sur Albrecht Dürer, le songe du docteur et la sorcière, une nouvelle approche iconographique aux éditions Slatkin, La différence. Je crois que c'était en 98 ou 99. Hein, 99, voilà. Donc je vais lui donner la parole pour nous parler du cinéma comme art, et puis ensuite, bien sûr, répondra à vos questions. Merci.
Je pense qu'un certain nombre d'entre vous ne sont pas des spectateurs exclusifs des écrans, des salles obscures, mais qu'ils regardent, comme tout un chacun, d'un œil plus ou moins attentif, les étranges lucarnes qui ont envahi nos habitations depuis près d'un demi-siècle, progressivement certes, mais inéluctablement. Ainsi, avez-vous peut-être assisté à ces remises de prix au Festival de Cannes, au César ou ailleurs, où des réalisateurs couronnés d'un soir, après avoir remercié leurs géniteurs, ce qui peut se comprendre, associent à leur fortune la totalité d'une équipe dont ils ne se disent que les humbles instruments, car, proclame-t-il, le cinéma est l'aboutissement d'une création collective. Je n'ai jamais entendu Picasso associer à son œuvre le constructeur des châssis de ses toiles, ni les martres qui ont perdu leur queue au bénéfice de ses pinceaux. Mais cela est une autre histoire. Par contre, Jean Renoir a déclaré que sur un plateau, le véritable metteur en scène du film est celui qui détient l'autorité, et que si c'est le balayeur qui tient cette autorité, il sera, lui, le metteur en scène de fait. Orson Welles, auquel on posait ce pontosane des questions journalistiques, répondit qu'il n'y avait rien de plus personnel qu'un film. Ce même Orson Welles qui écrivait qu'un film n'est réellement bon que lorsque la caméra est un œil dans la tête du poète. Il ajoutait un peu plus loin, un film est un ruban de rêve. Et encore plus loin, à quoi nous référons-nous quand nous parlons du marché mondial du cinéma ? Cette désignation statistique impensable à un individu dans un fauteuil dans une salle. Multipliez-le par un nombre considérable de millions et qu'obtenez-vous, sinon le même spectateur au pluriel ? Un autre grand poète du cinéma, Max Ophüls, a résumé en une boutade une opinion identique. Si l'on fait des films pour suivre le goût du public, on ne voit que son cul. Dans le petit volume consacré à Orson Welles par Maurice Bessy, dans la collection Cinéma d'aujourd'hui, on peut découvrir un tableau dressé par Welles lui-même où figure, dans une tentative de classement très subjective, un certain nombre de noms de poètes cinéastes dont nous savons que le grand Orson connaissait l'œuvre, les admirait et qu'il a tenté de les différencier en les classant par catégorie. C'est pas très net.
On peut zoomer.
Bon, si on peut avoir un peu plus de netteté. Voilà, bon. Nous ferons avec. En dehors du fait qu'il manque à cette généalogie des talents selon Welles déjà vieille de 40 ans, un certain nombre de créateurs qu'il citait volontiers, comme Abel Gance, avec lequel il fit l'acteur, et qu'il rangeait à l'instar de lui-même dans la première colonne, celle des inventeurs, juste après Méliès et Griffith. Ou bien Buster Keaton, qu'il connaissait mal, qui est un immense poète de l'image et qui l'aurait, bien sûr, fait figurer parmi les amuseurs. Nous pourrions également citer rapidement quelques illustres absents, les Lang, les Buñuel, les Ophüls, les Bergman, les Mizoguchi, les Lewin, les Powell, les Visconti, les Fellini, ces deux derniers classés collectivement. Et aussi les animateurs, d'Emile Cole à Tex Avery, et encore les documentaristes de Flaherty à Grierson et aujourd'hui à Marker. Et tous les autres, les plus jeunes, comme Kaplan, Cavalier, Tarkovsky, Rivette ou René, qui ne pouvaient rentrer dans ce tableau d'excellence de l'art poétique cinématographique et pour cause. Alors, comment se fait-il que cet art si jeune, 105 ans aujourd'hui, si populaire, plusieurs milliards de spectateurs par an, si prolifique, si divers, qui est à l'origine de presque tout ce que l'on appelle aujourd'hui le domaine de l'audiovisuel et de la communication, ne soit perçu, à l'exception d'une frange très restreinte d'amateurs, par ailleurs en constante diminution, que comme un produit de l'éphémère consommable et donc jetable comme les mouchoirs en papier. C'est à cette question que j'essaierai de répondre dans les 45 minutes qui nous restent à passer ensemble. Rappelons tout d'abord quelques données techniques de base. Le cinéma, comme la peinture, est le résultat d'une faculté physiologique parfaitement naturelle au genre humain. En effet, comme les cellules qui tapissent le fond de notre œil nous permettent d'analyser les perceptions colorées, de la même manière, l'existence du phénomène que l'on appelle la persistance rétinienne nous permet de recevoir les images en mouvement. Entre 16 ou 18 par seconde lors de l'invention du cinéma en 1895, 24 images par seconde aujourd'hui dans les salles et 25 images par seconde à la télévision, à cause du courant électrique distribué en 50 périodes pour l'usage domestique. Le film proprement dit, perforé des deux côtés aujourd'hui, il ne l'était que d'un seul à l'origine, est composé d'un support anciennement en nitrate de cellulose sur lequel est couchée une gélatine photographiquement sensible qui fixe les images. Les griffes de l'appareil de projection agrippent la pellicule qui défile devant une source lumineuse, l'image étant reprise par un objectif qui la projette sur l'écran. Une croix de mat, 24 fois par seconde, escamote le passage d'une image à la suivante pour rendre au mouvement son impression de continuité. Cette description sommaire n'est destinée qu'à rappeler aux auditeurs que vous êtes que la pellicule d'un film est un support transparent, suffisamment solide certes, mais aussi souple et fragile, puisqu'exposé d'une part à des éléments mécaniques et d'autre part à une source lumineuse qui dégage de la chaleur et donc des effets de changement de température. Ce support, unique au début de l'histoire du cinéma, fut très vite rendu capable d'être multiplié par copies successives. Et c'est ainsi que se développèrent à une rapidité fulgurante des projections différenciées susceptible d'atteindre des spectateurs pouvant contempler la même œuvre à des milliers de kilomètres de distance. Inutile de préciser que dans ses 55 premières années, le cinéma, qui bénéficiait avant l'arrivée de la télévision de l'exclusivité du transport des images, se développa à travers le monde avec un immense succès, ce qui démultiplia les films et donc les copies et les lieux de projection de manière exponentielle. Cette situation exigea une demande effrénée de spectacles, sans cesse renouvelée, et un appel féroce à la compétition, dans laquelle, il faut le dire, les États-Unis furent les incontestables leaders. Mais revenons au petit tableau wellésien, si incomplet soit-il. En haut à gauche, il figure deux noms encadrés, hommage du poète Wells au père fondateur, Georges Méliès et David Warr Griffith. Intéressons-nous à Georges Méliès. Il précéda l'entrée en cinéma de Griffith d'une douzaine d'années. 1896 pour l'un, 1908 pour l'autre. Parlant de lui-même, voici ce qu'écrivait Méliès, se remémorant sa période d'activité la plus intense, texte tiré de son autobiographie. Il parle à la troisième personne. Georges Méliès lance le cinéma dans la voie théâtrale spectaculaire et inaugure les grandes pièces à costumes et mises en scène importantes, les reconstitutions historiques, drames, comédies, opéras, etc., invente successivement la presque totalité des procédés techniques désignés sous le nom de trucage, qui ont rendu d'infini les possibilités du cinématographe. Se fait, avec un succès mondial, une spécialité dans les illusions, la féerie et les voyages imaginaires fantastiques, genre Jules Verne, est à la fois, dans toutes ses pièces, scénariste, décorateur, metteur en scène et artiste principal. Ne travaille que sur des scénarios de sa composition, presque tous œuvres d'imagination. Fermez les guillemets. De Georges Méliès, on peut encore voir, sublimement colorié au pochoir, Le Voyage dans la Lune. Certains d'entre vous l'ont certainement vu. Le Mélomane, Le Royaume des Fées, Le Voyage à travers l'Impossible, La Magie à travers les Âges, Les 400 Farces du Diable, La Fée Carabosse, 200 000 lieues sous les mers, Le Tunnel sous la Manche, il avait de l'avance, La Conquête du Pôle et quelques autres, dont un court-métrage qui est peut-être mon préféré et qui s'intitule Le Locataire Diabolique. Dans une chambre, entre un voyageur avec sa valise. Il l'ouvre et en sort meubles, vêtements et toute sa famille qu'il installe avec une adresse et une rapidité magique. Dans l'incapacité de régler son loyer, il déménage à la Cloche de Bois, emportant tous et toutes dans cette même valise, abandonnant la chambre rendue à sa nudité originelle en quelques instants. Il passe dans ce petit chef-d'œuvre, aussi colorié au pochoir, une vitalité, une alacrité comparable à l'atmosphère incongrue qui habite les tableaux de Max Ernst ou de Magritte. Un ton de merveilleuse absurdité très kafkaïen. Peut-être, ne l'ignorez-vous pas, et Max Brod l'a rapporté, que l'auteur du procès, grand mélancolique s'il en fut, s'étranglait de rire en lisant certains passages de ses œuvres à ses amis. Il y a, dans Le Locataire Diabolique de Méliès, une originalité de création équivalente aux prémices de la Métamorphose ou bien de la scène finale de La Dame de Pique de Pouchkin, lorsque le capitaine aperçoit la carte qui vient de précipiter sa perte et qui lui cligne de l'œil d'un air narquois. Dans un livre d'Ado Quirou, déjà ancien, Le surréalisme au cinéma, ce dernier écrit à propos de Méliès, et tous ses films disparus, leur perte est cruelle pour le cinéma. Quirou, comparant Méliès au plus grand poète surréaliste comme Breton ou Soupeau, aurait dû écrire « La perte est cruelle pour l'art du cinéma ». Car, entre les films égarés, les films qu'il brûla par dépit et ceux qu'il ne put réaliser pour diverses raisons, on peut considérer que 80% de l'œuvre de Méliès est définitivement perdue, ce qui ramène cette œuvre à des proportions paléontologiques. Sauf que, faute d'en avoir conscience, on peut considérer que la destruction se poursuit et que, faute d'y remédier, ce qui devient aujourd'hui techniquement possible, on pourrait voir disparaître les 20% restants. Pour qu'un artiste existe, pour que l'art se manifeste, Il faut que l'on puisse le contempler pour la peinture ou le cinéma, le toucher pour la sculpture, l'entendre pour la musique, le lire pour l'œuvre écrite. Or, le ruban de rêve, le film, comme je vous l'ai expliqué auparavant, est enregistré sur une couche sensible infiniment fragile, elle-même fixée sur un support qui, pendant 50 ans, fut inflammable, explosif ou susceptible de se décomposer chimiquement, entraînant la destruction définitive des documents enregistrés. Le nitrate de cellulose, dont je viens de décrire les inconvénients, ne fut remplacé par le film dit de sécurité, safety, qu'autour des années 45-50. Or, que se passait-il au temps de Méliès ? Les films étaient non pas loués, mais vendus à des exploitants de théâtres cinématographiques fixes ou mobiles, qui les projetaient jusqu'à l'usure, puis venaient se réapprovisionner en production fraîche. L'appétit des spectateurs pour cette nouvelle attraction était tel que, mis à part quelques très rares curieux qui essayèrent de conserver pour eux-mêmes des bandes souvent très usagées, il n'est pas rare que des copies des films finirent à la poubelle ou furent refondues en objets usuels tels que des peignes. Pour comprendre la précarité du cinéma et de son destin en tant qu'art, il suffit de constater que si le film constitue un objet unique lors de sa création, son exposition s'exerce par l'intermédiaire de multiples, comme la gravure ou la lithographie, avec l'inconvénient supplémentaire que je viens de décrire, l'extrême fragilité à la fois du support et de la gélatine. À cet handicap particulier, le cinéma en ajoute un second, bien plus cruel. Son devenir procède d'un renouvellement technique permanent. Ainsi, de 1895 à 1929, le spectacle cinématographique fut muet, le plus souvent accompagné musicalement, mais muet de tout dialogue. Des cartons intercalaires venant exprimer ou décrire la situation ou l'action. Bien entendu, l'apparition du cinéma parlant et sonore renvoya le film muet aux oubliettes. Et s'il ne s'était trouvé quelques fous furieux, comme Henri Langlois ou Jacques Ledoux, ou aujourd'hui Serge Bromberg, il y en eut quelques autres, heureusement, ou bien des créateurs eux-mêmes suffisamment reconnus et conscients de leur génie, comme Chaplin. Il figure sur le tableau wallésien sous la triple distinction d'amuseur, de poète et de conteur. Des films comme La ruée vers l'or, du même Chaplin, Sherlock Junior, d'un autre génie, Buster Keaton, Nosferatu et l'aurore, de Murnau, Naissance d'une nation, de Griffith, L'heure suprême, de Frank Borzage, ou Borzegui, comme disent les Américains, La roue d'Abel Gance, aurait pu subir le sort malheureux des rapaces de Stroheim, initialement monté en 54 bobines, dont il n'en reste que 24. Henri Langlois, le cofondateur de la Cinémathèque française, comparait le cinéma muet au bleu des vitraux de la cathédrale de Chartres. Ce fameux bleu dont aucun verrier n'est jamais parvenu à reconstituer la transparence et la densité dans la luminosité. Combien avait-il raison ? Qui n'a vu de sa vie la silhouette de Max Schreck, alias Nosferatu, voguant avec la peste dans une goélette sur la Baltique, avec ses cadrages si subtils choisis par Murnau et son directeur de la photographie, Fritz Arno Wagner, ou bien encore dans une ambiance d'horreur plus rédemptrice, la séquence du réveil des morts de la guerre du Jacques d'Abel Gance de 1919, ne peut saisir la transcendante beauté d'image dont l'impression de puissance et de fraîcheur dépasse en capacité d'expression tout un tas de bandes plus modernes qui, pour paraphraser Julien Gracq, relèvent de ce que je qualifierais de cinéma à l'estomac. Si l'on compare comment se formèrent les collections d'œuvres d'art plastiques que l'on peut encore admirer dans les grands musées du monde et dans un certain nombre de monuments pour lesquels elles furent conçues, le schéma est toujours le même. Un mécène, en général collectionneur, roi, prince, pape, banquier, marchand ou bourgeois, s'entoure de beaux objets qu'il commande ou qu'il acquiert auprès d'artistes qu'il distingue selon ses goûts. Même si l'on peut contester le beau désordre qui présida et préside encore à la formation de collections accessibles au plus grand nombre, on peut affirmer que rien d'équivalent ne se produisit pour le 7e art. En effet, dès son apparition, le cinéma fut l'objet d'un engouement populaire extraordinaire. Ce succès phénoménal créa un appel d'offres irrésistible où le qualitatif n'allait pas tarder à engager une lutte farouche et perdue d'avance avec le quantitatif. Lutte qui se poursuit encore aujourd'hui, avec des variantes que nous aborderons plus tard, et tout cela en vertu de deux principes. Premièrement, le principe d'immédiateté. L'exigence du renouvellement continu des œuvres en fonction de l'épuisement rapide de la curiosité du public, en un mot, un film chasse l'autre. Deuxièmement, le second principe étant le principe d'identification. Le spectateur, entraîné dans le flot d'images, 24 par seconde, je vous le rappelle, voit son attention céder au sentiment et bientôt, submergé par l'émotion, son champ de perception esthétique réduit au profit des impressions sensibles qui, nous le savons tous, limitent le recul nécessaire à la faculté de jugement. Dans son essence même, le temps cinématographique conteste le temps de formation du jugement et bien sûr le temps de formation du regard et du goût. Ces deux principes s'épaulant l'un l'autre pour rendre encore plus difficile le discernement par l'épreuve du temps. Poussé par l'exigence constante du renouvellement et les évolutions techniques qui feront passer le cinéma du muet au parlant à partir de 1929, puis du noir et blanc à la couleur dès 1937, début de la trichromie, jusque dans les années 50-60, où parallèlement au début de l'image électronique, le film couleur remplaça peu à peu le noir et blanc, les questions soulevées par la conservation des films, en général confiées à quelques monomaniaques sans grands moyens, la mémoire des créateurs s'effilochant elle-même au fur et à mesure de leur disparition, causeront encore plus de dégâts que la décomposition du support nitrate, remplacé dès la fin de la Seconde Guerre mondiale par le triacétate de cellulose, plus résistant et ininflammable. C'est ce que l'on croyait, nous y reviendrons. Pendant ce temps, très vite sorti de l'artisanat d'art, où quelques authentiques créateurs tentèrent toujours de découvrir de fertiles et protectrices niches, l'industrie prenait le contrôle de la création, depuis la conception jusqu'à l'exposition, avec le cortège de contraintes et des accidents de parcours qui font presque de chaque film une course d'obstacles original et anecdotiquement un autre film dans le film. Des rapaces, nous en avons parlé, d'Erich von Stroheim, certains d'entre vous peut-être connaissent son mot pathétique. Je considère que j'ai fait un seul film dans ma vie, heureusement ce n'est pas le cas, et personne ne l'a vu. Ces pauvres restes mutilés furent projetés sous le titre de Greed, les rapaces. Ou, un autre exemple, le Metropolis de Fritz Lang, que nous pouvons revoir aujourd'hui grâce à deux versions reconstituées, c'est tout dire, celle de Moroder et celle de Patalas. Les histoires tragiques de films, souvent les plus importants et les plus talentueux, jalonnent le siècle du cinéma. Afin d'illustrer ces propos, j'ai choisi de développer trois aspects différents et complémentaires de cette précarité inquiétante du sujet même qui nous rassemble ici, le cinéma comme art. Trois exemples, parce qu'il se trouve que d'une manière ou d'une autre, j'ai soit bien connu, soit collaboré avec les artistes ou le restaurateur concerné. Truffaut a dit de la règle du jeu de Jean Renoir qu'il était de ces chefs-d'œuvre qui génèrent le plus intensément le goût du cinéma et l'envie de filmer. Ce film, aujourd'hui reconnu comme un diamant de la création cinématographique, aurait pu disparaître corps et biens ou être présenté dans une version émasculée, sans l'opiniâtreté d'un collectionneur cinéphile du nom de Jean Gabory, malheureusement trop tôt disparu, entouré de Jacques Maréchal et de Jacques Durand. Sorti à la veille de la guerre, en 1939, le film est très fraîchement accueilli par la critique de tous bords. Bardèche, extrême droite, il vient de mourir heureusement, Sadoul, extrême gauche, Charansol, extrême centre. La première copie d'exclusivité de 113 minutes, montée par Renoir, est aussitôt réduite à 100 minutes sous la pression des exploitants. Le public ne se décidant pas à se déplacer, le film est à nouveau réduit d'une dizaine de minutes. Puis, suite à un nouveau passage à la lessiveuse, le rôle d'Octave, interprété par Jean Renoir lui-même, est presque totalement amputé. Ce qui est, d'un point de vue psychanalytique très révélateur, de l'hostilité des distributeurs à l'égard du seul coupable, le créateur. Enfin, la drôle de guerre déclarée, le film est retiré de l'affiche pour cause de défaitisme. En 1942, au cours du bombardement de Boulogne-Billancourt, le négatif du film est détruit. Néanmoins, réapparaissent en 1945 quelques copies de durée variable, 80 à 90 minutes, sans doute conservées par quelques distributeurs ou exploitants, qui poursuivent la projection d'un film entièrement défiguré. Enfin, profitant de l'assistance de Jean Renoir rentré des États-Unis, Jean Gabory et ses amis, après quelques années, rétablissent une version restaurée du film d'une durée de 110 minutes, qui ressort en 1959, exactement 20 ans après sa première projection. Comment le film a-t-il pu être constitué en l'absence de négatif ? Tout simplement parce qu'en noir et blanc, un positif sans trop de souillure ni trop de rayures peut constituer un élément de tirage. Il n'en reste pas moins que la qualité photographique d'un négatif lui reste supérieure. Et si la règle du jeu peut être considérée comme sauvée, il n'est déjà plus, dans les copies qui circulent aujourd'hui, qu'un multiple un peu dégradé par rapport à l'original, ce qui est indéniablement une perte. Passons à un autre exemple de poids. Je le dis avec tendresse d'un indiscutable génie à l'ombre duquel j'ai placé le début de cette conférence, Orson Welles. L'œuvre entière d'Orson Welles n'a été qu'un combat titanesque livré par un géant, beaucoup plus fragile, timide et sensible que sa légende, partiellement entretenue par lui-même pour mieux se défendre, ne pourrait le faire croire. Je n'ai jamais partagé l'opinion de ceux qui ont présenté l'œuvre de Welles comme un millefeuille alternant Shakespeare, des films comme Othello, Macbeth, Falstaff, et ses autres films, Citizen Kane, La splendeur des Amberson, La dame de Shanghai, La soif du mal. Tous les films de Welles mettent en scène des personnages excessifs, d'une dimension indiscutablement shakespearienne. Charles Foster Kane de Citizen Kane, Hank Quillan, le commissaire pourri de La soif du mal, Monsieur Arcadin, sont directement issus du sillon élisabétain. Ils en ont l'épaisse noirceur, parfois l'humour féroce et toujours l'appétit barbare dans l'horreur et la grandeur. En dehors de cette passion obstinée pour le théâtre de Shakespeare, Orson Welles était un très grand lecteur et un homme d'une vaste culture. À la suite de Max Reinhardt et de Piscator, dont il a peut-être vu des spectacles dans sa prime jeunesse, sa mère est morte quand il avait 8 ans et son père l'a aussitôt entraîné dans plusieurs voyages autour du monde et d'innombrables beuveries. Welles s'est plongé dans les nouvelles exigences théâtrales, notamment la distanciation, comme volonté de créer un nouveau rapport avec le spectateur pour casser le principe d'identification et ouvrir l'esprit du public au jugement non émotionnel. À partir de ses recherches, il décida de rédiger le scénario de Citizen Kane, coécrit avec Herman Mankiewicz, le frère aîné de Joseph. En 5 grands flashbacks, technique qu'il n'a pas inventée, mais dont il se sert avec brio, et dont il savait aussi qu'elle requiert une plus grande attention du spectateur, obligé de participer à l'histoire pour pouvoir en apprécier le déroulement. Je ne m'étendrai pas sur l'affaire Citizen Kane, bien connue de tous, grand succès de la critique lors de sa sortie, mais cuisant échec commercial, en partie provoqué par William Randolph Hearst, le magnat de la presse, qui, s'étant reconnu dans quelques détails de son destin personnel, essaya d'empêcher la sortie du film. Malheureusement pour lui, le film était produit par Howard Hughes, autre magnat de l'aviation cette fois, et aussi du cinéma. Ce dont il faut se souvenir avec Citizen Kane, c'est moins le cadrage des plafonds ou les extraordinaires prouesses de mise en scène d'une efficacité inégalable, mais surtout cette exploration par Welles de l'Amérique du pouvoir et des pouvoirs, alliée aux réussites personnelles d'individus issus de la masse des pionniers et devenus par leur seule énergie et leur obstination des Rockefeller, des Gould, des Ford, des Hearst, des Hughes, des Kennedy. Néanmoins, l'échec commercial du film lors de sa sortie, échec programmé par Hearst, entraîne à Wells dans un Golgotha de création particulièrement épineux, où nombre de ses projets cinématographiques prirent la direction de ce que Gans appelait le bureau des rêves perdus. Ou bien, lorsqu'ils aboutissaient, étaient victimes de coupes, de remontages, d'ajouts filmés à la demande de producteurs abusifs, vizirs tentant de prendre la place du calife. De la splendeur des Amberson, on amputa 40 minutes, définitivement perdues. Othello dut être tourné en 3 ans dans des conditions pathétiques. Don Quichotte, film jamais achevé, dont les bobines négatives, trimballées par Wells de laboratoire en garde-meuble, n'ont sans doute pas même toutes été tirées. L'œuvre de Wells, pour importante qu'elle soit, se résume à une petite douzaine de films, réalisés pour la plupart contre vents et marées, et au prix de ses propres prestations de comédien pour d'autres réalisateurs. Dans une liste non limitative de projets qu'il ne parvint pas à réaliser se trouve « Au cœur des ténèbres » d'après Conrad. Coppola s'en est souvenu pour la toute fin de son Apocalypse Now. « The Landru Story » que Wells céda à Chaplin, qui en fit son prodigieux Monsieur Verdoux. « Guerre et paix » réalisé plus tard par King Vidor pour la version américaine et Bundarchuk pour la version soviétisée. « Moby Dick » qui sera porté ultérieurement à l'écran par John Huston, Cyrano de Bergerac, auquel Abel Gance consacrera la moitié d'un film, Cyrano et D'Artagnan, en 1962, Le Tour du Monde en 80 jours. Ce projet fut repris par Mike Todd pour promouvoir la projection en grand écran 70 mm, format que Wells abhorrait. Ulysse, Salomé, Jules César dans une version modernisée qui ne vit jamais le jour. On ne peut pas dire que l'homme manquait de souffle ni d'ambition. À l'image des peintres et sculpteurs de la Renaissance italienne, il demeure un incomparable créateur de formes. Mais à leur différence, il n'eut nul collectionneur, ni pape, ni mécène pour l'encourager. Il n'eut que des complices, comédiens, techniciens et quelques aventuriers producteurs qui lui permettent de manifester son génie en accumulant un maximum de dettes. Le 16 janvier 1953, une toute jeune femme débarque au Havre, venant de Buenos Aires, après 16 jours de traversée. Elle représente la Cinémathèque argentine au congrès de la Fédération internationale des archives du film, qui a lieu à Vence cette année-là. En fait, comme Hernán Cortés, elle a brûlé ses vaisseaux pour être sûre de ne pas revenir en arrière. Après avoir collaboré avec Abel Gance, qu'elle rencontre en 1954 et dont elle deviendra l'assistante puis le metteur en scène de la seconde équipe et le co-auteur habituel de ses dernières productions, Nelly Kaplan rencontre André Breton, Philippe Soupeau et les dernières légendes vivantes du surréalisme. Un après-midi d'une année bissextile, elle découvre le musée Gustave Moreau, rue de la Rochefoucauld à Paris. Le spectacle de la jeune fille Thrace portant la tête d'Orphée, dont l'esprit de Cybèle frémit de tendresse pour le poète déchiré par les bacchantes, ou les Salomé, chez lesquels transparaît sous les écharpes constellées de rubis une sensualité déchaînée, sans repentance ni illustration d'une quelconque tentation expiatrice, éveillent sans doute chez Kaplan une volonté de renouveler certains mythes qui, depuis l'origine, pollue sans vergogne une bonne part de l'expression du cinéma mondial. Après avoir réalisé un premier court-métrage, bien évidemment consacré à Gustave Moreau, puis un second sur l'œuvre du gravure Rodolphe Bresdin, sa troisième œuvre, consacrée au carnet secret d'André Masson, est totalement interdite par la censure. Le film ne sortira qu'au prix de coupe le réduisant d'un grand tiers. En 1969, Kaplan réalise son premier long-métrage, « La fiancée du pirate ». Ce film, dont le scénario fut refusé avec un bel ensemble par les structures professionnelles de l'industrie cinématographique, ne dut son existence qu'au miracle de l'obtention d'une avance sur recette, institutionnalisée par Malraux quelques années auparavant, et à la témérité de ses producteurs, Nelly Kaplan et moi-même, qui signèrent avec une belle inconscience un paquet de traites qui aurait pu nous faire travailler jusqu'à la fin de nos jours pour en payer les dettes. Le film frôla d'une voix l'interdiction totale. Je me souviens de Nelly Kaplan discutant âprement avec un fonctionnaire du ministère de l'Information. La censure était placée sous l'autorité de ce ministère à cette époque, qui tenta de lui mettre le marché en main. Si vous tournez une fin différente où l'héroïne est tuée, il n'y aura pas de problème avec la censure. Heureusement, le visa de censure enfin obtenu a une voix, celle de l'abbé Oraison, qui était à la fois un prêtre et un psychiatre. Le film fut sélectionné au Festival de Venise, directement par le responsable italien de l'époque, et sauvé du même coup des griffes d'Anastasie et du mépris des distributeurs de films. La fiancée du pirate reçut, lors de sa sortie, un accueil que l'on peut qualifier d'enthousiaste, à peine modéré par quelques grincheux qui le classèrent dans la catégorie farce paysanne façon cloche-merle. Pas un critique, même parmi les plus laudatifs, en général entraînés par la joyeuse veine libertaire du propos kaplanien, ne comprit le renversement radical dans la mythologie habituelle des personnages féminins du cinéma, opérée par la réalisatrice, également auteure du scénario. À la différence de la Lola Lola de L'Ange Bleu, souvenez-vous, Marlène Dietrich, de la Loulou de Pabst, la merveilleuse Louise Brooks, de la Gilda de Charles Vidor, la sublime Rita Hayworth, de la Pearl Chavez de Duel au Soleil, de King Vidor, Jennifer Jones, de la Pandora d'Albert Lewin, Ava Gardner, de la sublime mais perdante Maria Vargas, de la Comtesse aux pieds nus de Mankiewicz, toujours Ava Gardner, de la tragique Lola Montes de Max Ophüls, Martin Carroll. La Marie de la fiancée du pirate, Bernadette Lafont, armée de sa seule beauté, de sa révolte et de sa libre sexualité, triomphe de la misère, des contraintes sociales, des haines et des préjugés, et regagne liberté et dignité sans provoquer ni sa perte ni celle de son amant. Heureuse pionnière dans ce difficile exercice de réalisateur de cinéma, après quelques exceptions, comme Alice Guy ou Ida Lupino, Kaplan, refusant de se laisser ghettoiser dans les nouveaux bataillons de femmes metteurs en scène, fut néanmoins catégorisée de féministe et donc dangereuse. Ce qui, en dépit du succès public indiscutable de La fiancée du pirate, fit de chacun de ses autres films un nouveau combat acharné pour imposer ses personnages libres et ravageurs, tels la Cookie de Papa les petits bateaux, traînée dans la boue dès sa sortie, la Néa de Néa, qualifiée de néant cinématographique par une critique malhonnête et revancharde, et qui ne dut son salut qu'à une brillante sortie américaine où le film devint un film culte. Il en fut de même pour Charles et Lucie, pour Pâte de velours, et enfin pour Plaisir d'amour, dans lequel le mythe de Don Juan, joyeusement retourné par la triple déesse blanche chère à Robert Graves, promettait, comme dans un nouveau bain de jouvence, la remontée vers l'âge d'or du genre humain, où, comme le préconisait André Breton, les contraires cesseraient d'être perçus contradictoirement. Un temps où Balzac n'aurait pas pu s'exclamer comme dans Serafita, « Qui nous délivrera des hommes et des femmes ?» Einstein, qui s'y connaissait aussi en physique de la nature humaine, disait qu'il est plus difficile de casser un préjugé qu'un atome. Directement ou indirectement issu du réservoir littéraire mondial, tout imprégné des traditions religieuses séculaires, le cinéma a naturellement sécrété des personnages féminins voués au tourment du sexe ou orientés vers la procréation et donc souvent sacrifiés ou punis à cause de cela même. Ces archétypes trouvant des véhicules aussi fascinants que les stars pour les transporter. Citons au hasard de nouveau Marilyn Monroe, les Ava Gardner, les Marlene Dietrich et aujourd'hui Sharon Stone, ont poussé jusqu'au système et sans grand effort les schémas éculés des représentations de personnages féminins, maman ou putain, quand ce n'est pas les deux à la fois. C'est à cette chape de plomb que Nelly Kaplan s'est attaquée avec le plus d'énergie et de virulence. Ces films auront besoin d'une longue vie pour parvenir à ébranler les certitudes si tristement évolutives des corps sociaux, sans parler des sociétés où les femmes n'ont même pas le droit de montrer leur visage, de conduire ou de prendre un bain de mer. Dans un texte de ses Holzwege, Les chemins qui ne mènent nulle part, Heidegger écrit « L'origine de l'œuvre d'art, c'est-à-dire en même temps l'origine des créateurs et des gardiens, et ceci veut dire l'origine du Dasein, l'être là, historial d'un peuple, c'est l'art. Il en est ainsi parce que l'art lui-même est, en son essence, une origine et rien d'autre. Un mode insigne d'accession de la vérité à l'être, c'est-à-dire à l'histoire. Comme le disait Gans, il y a le cinéma et l'art du cinéma. L'art du cinéma existe, je l'ai rencontré. Il est le propos de cette conférence. Mais il est en permanente jachère. Il pousse comme les orchidées sur un tas de fumier, en attendant des fécondations improbables, mais jamais complètement interrompues, heureusement, jusqu'à ce jour. On nous promet bientôt à Paris une nouvelle cinémathèque. Devra-t-on attendre un président de la République vraiment cinéphile pour adjoindre un multiplex de 5 ou 6 salles au musée du Louvre, porte obligée par où viennent de passer les arts primitifs, que l'on dit premiers, et qui auront bientôt leur Louvre bien à eux, qu'est Branly. Car imaginez que l'on installe provisoirement une cinémathèque au Louvre avant l'ouverture de la Cinémathèque française de Bercy. Cela pourrait changer radicalement le regard mou, sectaire ou indifférent que l'on porte généralement sur le cinéma, soi-disant le produit d'appel de la communication. Mais pour combien de temps ? Encore ce produit d'appel se résume-t-il actuellement le plus souvent à des films primaires dans lesquels poursuites automobiles, expression du politiquement correct de l'air du temps, sordide, violence et sexualité de pacotille, le dispute à la laideur ou à une sentimentalité de caniche. Certes, il existe un réseau de cinémathèques dans le monde, ces organismes au statut fort divers, en principe chargés de la conservation des films, sont néanmoins totalement impuissants à pouvoir assumer la dernière menace qui pèse aujourd'hui sur le nouveau support de sécurité, le triacétate de cellulose. Nous y revoilà, dont je vous ai dit qu'il avait remplacé le nitrate il y a plus de 50 ans. En effet, on vient de constater que sous certaines conditions, cet actuel support se décompose en libérant une forte odeur d'acide acétique, ce qui a fait qualifier cette nouvelle peste de la pellicule de maladie du vinaigre. Si on ajoute à cette dernière catastrophe annoncée le lent affadissement de certains procédés colorés, dont la stabilité incertaine pourrait se révéler à terme encore plus fragile que ne le fut le noir et blanc sur support nitrate, il est à craindre que nous n'en ayons pas fini des pertes irrémédiables. Quand on sait enfin, d'autre part, que les plus grandes cinémathèques du monde, celles des grands studios américains comme la MGM ou la Warner, ou celles maintenant euro-américaines comme Vivendi Universal, concentreront des dizaines de milliers de films, parmi lesquels plusieurs centaines d'œuvres capitales, dont la perte pourrait être comparée à l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, on comprend la nécessité d'engager une politique de sauvegarde de grande ampleur à vocation internationale. Comme souvent, il existe une petite lumière au fond du tunnel, et je ne voudrais pas achever cette conférence sur un ton trop pessimiste. La digitalisation a fait de tels progrès ces derniers temps que les transferts de films sur ce nouveau support électronique pourraient constituer une prometteuse sauvegarde, même si l'on devait mobiliser de très importants budgets pour ce faire. En ce qui concerne la création elle-même, les progrès de l'électronique, les caméras miniaturisées et la toile, le web, nous permettent d'espérer qu'une nouvelle expression, plus libre, moins onéreuse et donc moins dépendante de ceux que l'on appelle les décideurs, qui se croient investis du pouvoir de choisir au nom du goût supposé du public, pourrait se mettre en place et rendre aux créateurs, aux poètes de l'image, la place qui leur revient, la première. Je vous remercie de votre attention.
Allez-y. Bonjour monsieur.
Bonjour.
D'après ce, bon, si j'ai bien compris, il y a de nouveaux supports avec l'acétate de je sais pas quoi, de cellulose.
Non, c'est-à-dire, il n'y a pas un nouveau support. Actuellement, le support est du triacétate de cellulose.
D'accord, ok. Bon, alors donc, est-ce qu'il y a d'autres moyens pour faire un film qu'une caméra?
C'est-à-dire, oui, il y a des caméras électroniques, ce sont toujours des caméras, mais bien sûr, il y a le moyen des caméras électroniques nous apporte l'équivalent va nous apporter, je pense, qualitativement d'ailleurs, dans assez peu de temps, un moyen de pouvoir tourner sur un support qui sera tout simplement ou une puce électronique quand ça sera vraiment très 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 très, très perfectionné, ou actuellement un ruban comme vous pouvez en trouver quand vous utilisez du cinéma en i8 ou je sais pas quoi, de la vidéo normale. Peut-être ça sera un disque, enfin ça je ne peux pas vous dire quel sera le support final, mais il n'y a pas de doute que nous allons passer assez rapidement du support matériel à un support pellicule, triacétate à un support en tout cas susceptible de recevoir des images électroniques.
J'aurais aimé vous interroger sur avoir votre avis sur un problème qui est le problème de la subjectivité en art. Au fond, on pourrait opposer caricaturalement, je le reconnais, une élite qui apprécierait les œuvres d'art et élite d'ailleurs dont il faudrait connaître les critères, qui apprécierait les œuvres d'art en se basant sur un jugement non émotionnel. Vous avez employé cette expression à propos d'Orson Welles. Et d'autre part, j'ai acheté une vidéocassette qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle Les Enfants de Lumière, je ne sais pas si vous la connaissez, où il y a beaucoup de films de valeur, Les Enfants du Paradis, Coupi-Main Rouge, etc., etc., etc. Et au contraire, qui valorise le côté émotionnel de l'appréciation. Alors, on pourrait dire caricaturalement qu'il y a une élite qui apprécie bien, et puis il y a le tout venant du peuple, on pourrait dire, qui apprécie de façon, d'ailleurs passagère, et qui apprécie de façon, disons, mauvaise. J'aurais aimé que vous donniez votre avis là-dessus.
Je crois, si vous voulez, que vous avez tort d'envisager la chose, sous un angle qualitatif ou avec des définitions très tranchées. Je considère, moi, la première chose qui est capitale, tout le monde peut avoir un accès aux images, il n'y a pas de question. La vraie question est simplement qu'il faut exercer son œil. Vous allez au Louvre regarder un tableau comme Et in Arcadia Ego ou un autre, vous pouvez rester un bon moment devant, donc ça vous permet, si vous voulez, d'en approcher toutes les facettes. Le problème du cinéma, c'est que le cinéma va assez vite. La perception, je me souviens, enfin je vous donne un exemple, par exemple, la grande bagarre qu'il y a eu dans le cinéma d'art et d'essai pour les projections sous-titrées et les projections non sous-titrées, c'est-à-dire entièrement doublées, n'est-ce pas ? Bon, il y avait des tas de gens qui disaient « Ah, moi j'adore le cinéma, mais alors vous comprenez que les sous-titres, ça me fatigue de les lire, j'arrive pas à suivre à la fois les sous-titres et les images. » Bon, je crois que chacun et tous devraient s'exercer. C'est pas facile, évidemment. Peut-être certaines personnes sont moins douées, mais enfin, c'est comme la conduite automobile. Il y a de très bons conducteurs d'automobile et malheureusement, il y en a aussi de très mauvais qui ont aussi leur permis. Ça fait beaucoup d'accidents, ce qui est plus grave que le cinéma. Mais en bref, je suis persuadé qu'il n'y a pas une élite ou pas d'élite. Si on a un accès à la culture quel qu'il soit, qu'on a un accès également à la reconnaissance de ses propres émotions, ce qui est supposé chez tout homme adulte et non affecté d'une maladie quelconque, je crois qu'on peut accéder parfaitement à la découverte et à la joie des images. Et effectivement, il faut reconnaître une chose, si on s'intéresse vraiment aux films et au cinéma, il faut voir les films de multiples fois. Une vision d'un seul film ne suffit pas. Enfin, pour un très grand film, écoutez, je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais je ne sais pas, il y a des films que j'ai vus, je sais pas, 30 ou 40 fois, que certaines fois, je veux dire, encore aujourd'hui, de temps en temps, je me repasse ou que je vais voir, soit dans des salles ou soit en vidéo. Il n'y a pas de fin au plaisir d'analyser un film, et je crois que ça n'a rien à voir avec un problème d'élite. C'est tout simplement un exercice comme un autre de reconnaissance, de valeur artistique, esthétique à des œuvres. C'est tout simple.
Monsieur.
Oui, bonjour monsieur. compte tenu de l'importance de l'image, que représente l'image pour la vie de chaque téléspectateur ou personne allant au cinéma, il y a un problème d'éducation. Dans notre éducation, il n'y a pas du tout d'éducation de l'image qui est faite. À travers l'histoire de l'art, il y a un faible enseignement de l'histoire de l'art en général, mais il n'y a pas du tout d'enseignement de l'histoire du cinéma. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'exercer le jugement de chacun s'il était introduit dans non seulement l'histoire du cinéma, mais qu'on puisse voir des films classiques à chaque âge de l'enfance?
Non, mais c'est tout à fait juste. D'ailleurs, écoutez, il y a ce grand débat actuellement dans l'éducation française où on commence simplement à penser qu'on va donner une éducation artistique aux jeunes enfants, etc. Bon, il ne faut pas penser qu'il n'y a pas de chaire d'histoire du cinéma. Je dirais que malheureusement, il y en a quelques-unes. Parce qu'elles ne sont peut-être pas toutes confiées à des gens, susceptibles de fabriquer de grands initiateurs. Bon, il y a quelques chaires dans les universités en ce moment, il y a des gens qui travaillent des unités de valeur. Ce qui est certain, c'est un peu ce que disait Louis Dandrel hier soir à la conférence duquel j'ai assisté. C'est meilleur pour l'image. Il y a une meilleure approche, je dirais, de la population en général et de curiosité autour des images que sur le son. Le son, c'est vraiment une catastrophe. Bon, mais ce n'est pas suffisant. Il est certain que les formations anciennes autour de ce système de ciné-club, bon, qui n'a plus cours aujourd'hui, malheureusement, qui était aussi parfois un peu sommaire, mais enfin, il manque actuellement, très nettement, un certain nombre d'initiateurs pour permettre à des gens très jeunes et moins jeunes d'accéder aux images avec une compréhension vaste. Par contre, notamment, je dirais, il y a une espèce de commentaire cinématographique surabondant au niveau critique, par moment, qui aussi, c'est un peu les arbres qui cachent la forêt, si vous voulez. Il y a des commentaires qui sont tellement savants, tellement compliqués autour de certains films, de certaines œuvres, que ça brouille un peu les pistes. Alors on dit, la France est le pays du monde où le cinéma est le mieux accueilli. Alors tous les réalisateurs, c'est vrai, viennent en France, ils vont au Festival de Cannes, ils arrivent avec leurs films. La France est le paradis, si vous saviez ce qui se passe dans mon pays, la Suède, les États-Unis, c'est épouvantable, le niveau de la critique, tout ça. Bon, c'est vrai, il y a une importante, je dirais, coalition de journaux, de critiques, etc. Mais il manque quelque chose qui serait un exposé plus vaste, plus simple et plus répandu de la chose cinématographique. Ce qui fait qu'en ce moment, on est dans une période en plus très défavorable, car le cinéma, effectivement, est déserté au fur et à mesure et tout le spectacle est reporté sur les chaînes de télévision, ce qui crée des possibilités infini pour les individus de voir des spectacles, mais qui, certainement, s'il n'y a pas dans la famille quelqu'un qui puisse commenter un peu les images, eh bien, effectivement, il y a peut-être des grands petits génies qu'on perd comme ça pour la création de demain. Voilà.
Bonjour. Je crois que si le spectateur il a d'imagination, il peut regarder une seule image pendant beaucoup de temps. Une heure, 30 minutes, indéfiniment. Mais disons qu'une seule image, c'est très peu. Et que 24 images par seconde, c'est trop. Qu'est-ce que vous pensez des 8 cadres par minute?
Écoutez, il y a des réalisateurs américains qui ont fait des choses comme ça. Il y a des tas de créateurs qui ont tourné. Vous savez, le cinéma, c'est sans limite. Vous pouvez tourner à 8, vous pouvez tourner à 4, vous pouvez tourner aujourd'hui à 3600. Il y a des caméras de la NASA qui tournent à 40 000 images par seconde. C'est d'ailleurs plus tout à fait les mêmes caméras que celles que nous utilisons. Enfin, c'est absolument sans limite. La seule chose que je peux dire, c'est que disons qu'il y a, comme dans tous les arts, des canons, n'est-ce pas, comme en poésie, les sonnets, ou en musique, les sonates, et ainsi de suite. Bon, le cinéma, en général, c'est un film de fiction d'une heure et demie, avec une projection à 24 images par seconde. Pour moi, c'est très satisfaisant s'il y a quelque chose dans le film. le problème de la rapidité de projection est laissé à la liberté des artistes et des, je dirais, des consommateurs.
Oui, je trouvais le...
Il y a toujours des hommes qui parlent.
Non, je trouvais le monsieur un peu sévère. Je trouve que l'éducation nationale fait des efforts depuis une bonne dizaine d'années. On développe, bon, par exemple, certains conseils généraux ont développé collège au cinéma pour éduquer justement nos jeunes
oui, mais voyez-vous,
autour de l'image. On leur présente non pas des films modernes, mais des films anciens, enfin, toute nationalité et tout genre confondu. On développe de plus en plus, on s'appuie de plus en plus sur des films ou autres et on les initie à être critiques vis-à-vis de ce qu'ils voient à l'image. On a créé des options au cinéma au lycée. Enfin, je crois que
Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas un effort fait par l'éducation nationale. Je dis que ces efforts me paraissent, si vous voulez, par moment... Peut-être, comme toujours et souvent, quand il s'agit de matières qui n'ont pas une tradition d'enseignement longue, ils me paraissent un peu sommaires ou brouillons. Par exemple, si j'ai insisté tout à l'heure sur le problème du film muet, bon, savez-vous que c'est... enfin, Arte a décidé de présenter un film muet par mois, et je crois que cette décision date de 3 mois en arrière. Bon. La culture du film muet serait une nécessité absolue. Pourquoi ? Parce que dans l'histoire de la compréhension de l'image, l'expression par un certain nombre d'artistes du temps du muet a permis tout simplement la formation du regard qui sont ensuite devenus, pour ces spectateurs, la découverte du cinéma parlant et l'admiration des grands chefs-d'œuvre du cinéma parlant. Je ne dis pas que l'éducation nationale ne fait rien. Je dis simplement que peut-être et d'une certaine manière... on devrait faire attention au sens que l'on donne à l'enseignement du cinéma et la découverte des images, c'est tout. Bon, et que peut-être une certaine unité recomposée autour de grands thèmes qui pourraient être quelques colloques autour de l'enseignement de l'histoire du cinéma qui ne soit pas dominé par les pompes de la critique parisienne, eh bien ça ferait peut-être pas de mal à une évolution saine de l'éducation par le cinéma à l'école. Cela étant, je répète, ils font pas mal de choses et c'est beaucoup mieux qu'il y a 20 ans, c'est évident.
On va prendre encore 2 questions, monsieur et puis monsieur en haut.
Bonjour monsieur, excusez-moi d'une question de pure curiosité de la part d'un étranger. J'entends souvent les Français dire le cinéma comme le 7e art et la télévision le 8e art et la bande dessinée le 9e art.
Oui.
J'aime bien savoir les 6 autres arts qui précèdent le cinéma. Merci, monsieur.
Bon, alors écoutez, je crois que la poésie, la peinture, la sculpture, la musique, la rhétorique, pardon,
la danse,
et il y avait aussi la rhétorique. Voilà. Voilà. Mais vous savez, c'est l'histoire des 9 muses, hein. Vous pouvez vous reporter à la mythologie, là vous aurez à découvrir. Mais je ne sais plus, d'ailleurs, Jean-Charles Takela qui est là dans la salle, tu te souviens qui a décidé de... L'histoire du 7e art, ça a une histoire, c'est Deluc ou... C'est Canudo, c'est ça, Canudo. Voilà, Canudo a été à l'origine. Voilà, exact. Merci.
Je voulais savoir, est-ce que vous ne pensez pas que... Vous n'avez pas donné quand même une image peut-être un petit
peu... J'ai pas entendu, monsieur, excusez-moi.
Vous m'entendez ?
Oui,
est-ce que vous
pensez
pas que vous n'avez pas donné une image peut-être un peu nostalgique du cinéma ? Parce que, bon, en dehors du fait qu'il faut bien sûr garder à l'esprit, garder présent à l'esprit le passé du cinéma, l'histoire, etc. Mais enfin, bon, déjà, à part Orson Welles et Nelly Kaplan, il y a peut-être quand même d'autres cinéastes intéressants dont on peut parler. Enfin, c'est vrai qu'il n'y avait pas le temps pour le faire. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que le cinéma d'aujourd'hui, c'est peut-être un peu rapide de le définir comme simplement des poursuites de voitures ou la sentimentalité de pacotille. Je veux dire, il y a quand même pas mal de films intéressants. Et,
bon, non, mais monsieur,
on ne peut pas citer de nom, évidemment, il y en aurait
trop. Non, mais enfin, je comprends très bien ce que vous voulez dire. Je comprends parfaitement. Aucune nostalgie. J'ai beaucoup de curiosité et d'intérêt pour le cinéma d'aujourd'hui. Cela étant dit... Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a une vingtaine, une trentaine d'années, quand on faisait au Cahier du cinéma, une recherche annuelle pour désigner les 10 films les meilleurs de l'année. Je me souviens, c'était des bagarres fantastiques parce qu'on n'arrivait pas à faire rentrer tous les films qu'on aimait. On disait, mais on ne peut pas agrandir jusqu'à 20, c'est, ou jusqu'à 15 au minimum. Bon. Cette année, bon, je vais au cinéma tout le temps, je continue, je vois tous les films dont, auxquels vous faites allusion, de tous les jeunes réalisateurs et du monde entier. Je suis malheureusement obligé de vous dire que le quantitatif a pris une place absolument prépondérante sur le qualitatif. Je suis désolé, j'ai beaucoup d'admiration pour quelques jeunes metteurs en scène, mais le cinéma actuel, qualitativement, est assez médiocre et je maintiens ce que je dis.
Bien, bon, on va rester là, ce constat un peu triste. Alors, merci beaucoup.